Bonjour, bonsoir, bienvenue à ce barbecue foot du lundi 6 mai. Et oui, début mai, ça sent bon les ponts, mais ça sent bon aussi la fin de saison. Je fais des verres sans avoir l'air, cette émission va être terrible. Terrible, on verra dans quel sens. Et pour m'accompagner, les vieux briscards, on va dire que là, on met l'équipe type. Justement pour cette fin de saison, histoire d'être sûr sur nos appuis et pouvoir pas transformer l'essai parce que c'est pas le même ballon, mais vous m'avez compris. Même si ce week-end c'était les demi-finales européennes et on retrouve le Stade Toulousain en finale qui va essayer d'aller chercher un nouveau titre européen. Mais on n'est pas là pour parler de l'Ovalie, mais plutôt du ballon rond, du ballon pied comme on dit du côté de Séville. Et donc pour m'accompagner, on va commencer par notre Carlos Misère à nous. Ça va mon Carlos ?
Eh bien bonjour, bonsoir, bonne chance si vous êtes dans les bouchons. Ça va, j'étais bien content samedi de ce qui s'est passé. Je suis joie, je suis création, je suis lumière, donc tout va bien.
Bah oui, parce que si vous ne le saviez pas encore, je crois que c'est pas encore mathématiquement fait, mais on va dire que voilà.
On a un différentiel de plus 20 à peu près par rapport à Angers. Donc, normalement, on pourrait se dire que la montée est à peu près.
C'est ça, à part une météorite qui s'écrase sur la baie des Champs, on voit pas comment Auxerre ne sera pas directement pensionnaire de Ligue 1 l'année prochaine. Et le troisième larron, mais non des moindres, c'est notre Jérôme, le roi du stade. Ça va, mon Jérôme ? Oui, parce que toutes tes équipes de cœur ont gagné ce week-end. Alors, tu n'es pas un Marseillais, tu n'as pas 50 équipes de cœur, mais tu en as déjà pas mal.
Laissez-moi parler. Ah, mais...
il est comme Natacha Campouche, il en a toute une tripotée. Donc.
Mais laissez-moi parler. Mais enfin, c'est quoi cette attitude? Enfin, bonjour déjà. Bonjour. Hein, quand on rentre d'un podcast dans une émission, on dit bonjour. Donc, je vous souhaite le bien bonjour, mes chers amis. Oui, en effet, je suis jouable. Joie passagère, hein, parce que une journée de championnat ne ressemblant à aucune autre, voilà. Mais en effet, mes trois équipes de cœur ont gagné ce week-end. Mention spéciale au Rapide de Vienne qui a gagné Rapide. Alors non, Rapide, dis pas le Rapide de Vienne, puisque comme on dit pas le Real de Madrid ni le Bayern de Munich, mais le Rapide Vienne qui a gagné contre ce qu'on appelle ici les canettes. Hein, les canettes de Salzbourg, voilà, et qui ont gagné 2-0, sans flancher, ce qui leur permet pas de gagner beaucoup de place en championnat, mais bon, voilà, ça a quand même une victoire de prestige contre le Salzbourg qui sera peut-être pas champion cette année, c'est ce qui qui est quand même une nouveauté depuis 15 ans. Hein, donc pour ceux qui ne savent pas que Salzbourg est sponsorisé par Red Bull, voilà, d'où le nom de Canette. Pour ceux qui n'auraient pas fréquenté le football européen depuis des années. Et puis le Liverpool, évidemment, Liverpool et le Stade Rennais, voilà, qui ont gagné aussi. Ce qui ne change pas grand-chose non plus à leur classement au championnat, mais voilà, ce qui fait toujours plaisir.
Tout à fait. Si, quand même, c'est important, justement. Superbe passe décisive, c'est important pour Rennes dans cette course, justement, à la place européenne. Donc,
vous êtes maintenant... À l'hypothétique place européenne.
À l'hypothétique.
Quoique la cinquième place est toujours possible pour les Rennais, mais...
Maintenant, vous êtes habitués.
L'hypothétique septième place qu'on va essayer de gagner de manière ou d'une autre. Voilà.
Donc maintenant, vous le savez, quand je suis aux manettes, j'utilise le superbe outil qui nous permet de voir ce qui se passe et les résultats tout en graphique. Donc, les résultats du week-end, une journée tronquée, car il n'y avait que 6 matchs. Le 7e se disputant en ce moment même entre Lille et Lyon. Donc là, à la 11e minute, il y a toujours 0-0. Lillois, très bonne entame de match. Une petite pensée à notre Jason Boutade qui doit être en feu devant le match. Donc, on lui souhaite le meilleur. Donc, pas d'énormes surprises. On va dire qu'il y a peut-être la victoire de Montpellier à Toulouse. Donc, comme d'habitude, Montpellier sur courant alternatif et qui là a réussi à piéger le TFC. La victoire facile de Monaco contre Clermont. On va pas dire qui enterre définitivement Clermont, mais quasiment. Donc on en a parlé. La victoire, certes dans la douleur, mais une belle victoire quand même rennaise en terre piscine, avec justement une fin de match un petit peu chaude et l'expulsion de Miko Tadze, qui coûtera peut-être cher aux Messins sur les deux derniers matchs. Parce que c'est quand même leur
sauveur. Oui, enfin, on en reparlera peut-être en plus dans le détail, mais peut-être qu'il sera plus. Enfin, son carton rouge va être sans doute levé.
En tout cas, j'espère parce que c'est.
Intéressant. Rudy Bucquet a mis dans son rapport qu'il s'était trompé. Donc, le carton rouge va peut-être être retiré.
Après, c'est tout à son honneur, mais
oui, voilà. Mais après, voilà, on en reparlera peut-être dans le détail, mais que fout l'avare. Enfin, sur ce match, il y a eu des faits de jeu assez hallucinants.
Ah ben justement, l'avare l'a appelé, et c'est lui qui ne s'est pas déjugé sur le carton rouge. Oui. Justement, il a regardé les images, il fait non, je maintiens mon rouge. Ah bon, ok. Merci, monsieur
Bucquet. Bon, après, il s'est déjugé, lui, je ne sais pas.
Ouais. Bah, parce qu'à mon avis, on a dû lui dire qu'il avait merdé. Je pense que quand tu as peut-être deux personnes qui te disent que tu as merdé, bon, tu dis non, j'ai peut-être raison. Je pense que si après le match, tu as une vingtaine de personnes qui disent que tu as merdé, peut-être que tu commences à réfléchir sur le fait.
Oui, et puis il a pris un torrent d'insultes aussi via les réseaux, etc. Enfin,
après, bon, ça.
Les fameux réseaux, vous savez, les réseaux avec un Z, Z, ZOS.
Les réseaux avec un X plutôt, tu veux dire.
Oui, voilà, avec un X à la fin. REZOX. Les réseaux.
Les réseaux. Sinon, pour le reste de la journée, la victoire qu'il fallait à Lens, qui enterre un petit peu plus Lorient, mais qui permet aux Lensois de toujours croire en leur rêve européen.
Surtout qu'ils viennent à Rennes le week-end prochain, donc.
D'autant plus.
Il fallait engranger des points pour eux.
Voilà. Ouais, même pour Rennes, c'est exactement le même constat. Prendre des points parmi les relais contre les relégats pour essayer de croire en leur rêve. La bonne peut-être opération, hormis celle de Monaco qui s'assure quasiment la deuxième place vis-à-vis de Brest, qui a fait la contre-performance un peu du week-end en étant dominé chez eux, mais au moins ils sauvent le nul, 0-0. Mais c'est surtout le Havre. Je ne vais pas dire qu'ils sont quasiment sauvés, parce qu'ils ont encore un calendrier très compliqué sur la fin de saison. Mais cette victoire contre Strasbourg, elle fait vraiment du bien après le match nul au Parc. En tout cas, c'est des points qui ne sont plus à prendre. Et comme on l'a dit,
Et puis ça marque des buts, hein, le Havre, finalement.
Ça fait, je crois, que deux fois d'affilée qu'ils mettent trois buts, ça leur apparaît.
Ouais, non, mais
même en Ligue 2.
Si on regarde leur attaque, je pense que c'est pas parmi les. C'est pas parmi les moins bonnes, hein. Enfin, parce que moi j'ai toujours l'impression que le Havre il marque des buts à tous les. Enfin, je voudrais me contredire, mais j'ai l'impression qu'ils marquent. Ils en prennent aussi, hein, mais ils marquent pas mal de buts, quoi. C'est une bonne attaque, quoi.
Après, donc voilà, le classement. J'ai tronqué Paris en haut, parce qu'on sait où ils sont. Vu qu'en plus Paris n'a pas joué comme Marseille et qu'ils joueront donc mercredi en 8 contre Nice et contre Reims, il me semble. Oui, c'est ça. Donc, tout en bas, on voit que ça craint quand même du boudin pour Clermont, qui est à 7 points de la première place de non-relégable. Donc, ils sont sûrs de
jouer
au maximum jouer le barrage. Et encore un barrage à 4 points de Metz. Donc, ça va quand même être très compliqué à aller chercher. Lorient qui fait aussi la mauvaise opération, mais pour eux, ils ont au moins pour eux d'être à seulement 3 points de Metz.
Donc ouais, Metz... Mais c'est la spirale de la défaite pour Lorient. Là. Ils sont à. Ouais. C'est combien ils ouais, ont...
Ah bah là, il y a minimum 5 défaites d'affilée. Et...
Ils sont à un nombre de matchs non gagnés qui est quand même assez.
Ben non, mais même ils ont. Oui, 5 défaites oui, d'affilée, oui, c'est ça.
Ouais. Au minimum, hein, parce que là, il n'y a que les 5 derniers matchs. Oui, oui. Ça peut même être plus. Et en plus, les pauvres se déplacent, se déplacent
c'est,
à Marseille.
C'est, en gros, sur les 8 derniers matchs, c'est 7 défaites, 1 nul. En gros, ouais. C'est défaite face à Lyon, nul face à Monaco. Et après, ils enchaînent les défaites face à Brest, Montpellier, Nice, Paris, Toulouse et Lorient. Et Lens. Excusez-moi. Ouais.
Donc, on savait que ça serait compliqué pour eux pour la fin de calendrier. Pour Nantes aussi, mais Nantes a su prendre les points. Et notamment contre.
Nantes, c'est fou, ça n'a aucun fond de jeu. Ils arrivent toujours après à sortir du bourbier. À se...
Ben oui, mais c'est la magie. C'est la magie de.
La machine de Comboiré, ça.
Mais ouais. C'est... Il n'y a pas de secret, c'est le sorcier, ça. C'est... Voilà.
Après, c'est jusqu'à quand ça va tenir, quoi. C'est parce qu'à un moment donné.
Bah, il faut que ça tienne encore 2 matchs et puis c'est tout.
Oui, non, mais combien d'années ça va tenir?
Ah oui. Oui, parce bien sûr. Bah, c'est pas moi qui vais défendre les Nantais, là.
Non, mais c'est... après, c'est un club quand même, tu vois. T'as une historicité au niveau de la Ligue 1 et c'est quand même.
Ouais, enfin, en même temps, les Rennais nous disent que si Nantes descend, on prendra pas 6 points par saison. Donc, voilà. C'est 6 points dans la besace, quoi. C'est, voilà. On est quand même chez nous à la Beaujoire, tout ça. C'est important, ces choses-là.
Mais quelle indignité.
Salut tout particulier à nos amis nantais, évidemment. Hein, c'est... Tout ceci n'est que d'humour, chers amis. Ah, je sais pas s'ils comprennent l'humour, ces gens-là. Mais bon.
On embrasse nos petits beurs nantais.
Voilà.
Donc, le Havre, qui est le premier non relégable, qui garde ses 3 points d'avance sur Metz. Il fallait prendre ces points-là. Ils les ont pris. Ils ont, entre guillemets, un joker. Mais on va dire qu'en cas de bons résultats et contre-performance de Metz contre Strasbourg, on va dire que ça semble bien parti pour eux pour le maintien.
Bon, Strasbourg, de toute façon, ils sont sauvés, donc ils sont.
Ouais, fous. Voilà. C'est
Strasbourg, c'est vraiment la roue libre, quoi. Enfin, là.
Ouais, ils ont 7 points d'avance sur Metz, autant dire que pour eux, c'est bouclé. La même chose pour Reims, même si, en plus, Reims a un match en moins à jouer contre Marseille. Qui s'est vu? Bah, Will Steel, il est parti cette semaine. On a vu la brève passer
voilà.
De manière assez.
Et ça, il faut reconnaître que tu avais quand même fait tes bouboules de cristal, mon cher Jérôme. Parce que tu nous avais dit quand même que tu ne le sentais pas. Mais c'est vrai que le coup de Sunderland, c'était quelqu'un quand même, tu vois, qui était quand même plutôt. J'appréciais plutôt au niveau de la forme du jeu de Reims. Quelqu'un d'un peu jeune, tu vois, qui donne un peu des nouvelles idées, c'est toujours intéressant. Mais là, je me suis dit, non, mais il a craqué.
Bah, après, lui, il a une carrière à faire. Et puis, je pense aussi que le fait qu'on lui ait enlevé ses joueurs, Matuziwa qui est parti à Rennes à l'intersaison, enfin, il sent que de toute façon, il n'y a pas. Voilà, Reims, c'est pas une équipe qui va jouer le haut de tableau. C'est pas... Il n'y aura pas une surprise Reims comme il y a une surprise Brest. On y a cru. À un moment, on a dit, tiens, oh là là, les Rémois, le Will Steel, machin, il n'y a pas... Voilà.
Tu pouvais peut-être t'en douter, non ? Je ne sais pas.
Tu t'en doutes. Non, mais après le mercato d'hiver, franchement, c'est Brest qui laisse pas partir les Smelou, et puis ben ouais, Reims qui laisse partir ses cadres, Matuziwa, je sais pas s'ils ont perdu d'autres joueurs, hein, j'ai pas suivi, je vais pas être, oui. Mais voilà, là tu peux avoir des éléments pour comprendre la décision de Will Steele. Et je pense que Will Steele, bon, tout belge qu'il est, et puis on le voyait très bien, enfin moi ça, je m'arrête de le voir, enfin je regardais juste les interviews d'après-match sur Prime, parce que voilà, c'est de le voir commenter les matchs, c'était assez amusant. Voilà, et je pense que c'est un type qui
vit. Il avait un franc parler.
Voilà, il a un franc parler, et puis qui vit le football. Enfin, c'est et que à Reims, ben c'est dans la gestion qu'il faut un club. Voilà, Reims, c'est on vise le ventre mou de la Ligue 1, c'est très bien. On a des rentrées d'argent via la télé, etc. On fait pas de, on fait des petits coups d'éclat par-ci par-là, mais est-ce que Reims va jouer la Coupe d'Europe? Je sais pas. Voilà. Non mais on en parlait quand même. Attendez, on en parlait en début de saison. Hein. On a dit l'Europe.
Ah bah, ils avaient fait un recrutement qui semblait un peu.
Et du fait de l'entraîneur, du projet de jeu, on disait bah oui, ça tient la route. Mais voilà, je pense que le mercato d'hiver, ça l'a. Voilà. Le Will Steele, il a dit bon, avec son bel accent belge, hein, bah, allez bien vous faire. Hein, voilà.
Et puis il s'en va avec son frère d'ailleurs.
Oui. Bah oui, bah il aurait tort, parce que c'est bien, parce qu'il il peut le remplacer quand il est pas là. Il peut lui faire passer pour lui. On l'a vu, oui, puisque quand il était suspendu, c'était son frère qui était sur le banc. Donc oui, non mais voilà. Après.
Et breaking news en direct, Lille a ouvert le score.
Ah ben bah, ça m'étonne pas, parce que comme tu le disais, ils étaient. C'était eux qui étaient à l'attaque. Hein.
Et donc, ce qui permet de faire une super transition sur le haut du classement, où on peut voir que hop, il y a eu une action lyonnaise. C'est pour ça.
Donc, Lille repasse troisième.
Et donc, Lille, voilà, est en train de faire la bonne opération et profiter du faux pas de Brest. Ils reprennent la troisième place avec un point d'avance. Et Lyon, de manière opposée, bah justement, Marseille sans jouer leur repasse devant, avec un match en moins et un goal average largement en faveur de Marseille, qui a 19 buts d'avance sur Lyon.
Bah, de toute façon, ce serait logique que les places européennes, enfin, au vu de la saison, se jouent entre Marseille, Rennes et Lyon, quoi. Enfin, après.
Bah, c'est les clubs qui vont pour normalement, qui sont censés jouer justement ces places européennes au vu de leur budget, de leur et de leur effectif. C'est quand même c'est logique. Mais Lyon. Vas-y, Arnaud.
Non, mais vas-y, pardon, Carlos. T'as pas beaucoup parlé. On monopolise depuis tout à l'heure avec Jérôme.
Non, mais après Lyon, de toute façon, là, avec la finale de la Coupe de France qui va se jouer pour eux bientôt, je sais pas si le match de Lille est vraiment une priorité pour. Enfin, après, là, je vois que Pierre Sage.
Ils peuvent prendre leur marque à Lille, déjà, là.
Oui. Voilà.
Ils vont jouer dans le même stade, donc déjà, mais, ils peuvent voilà,
se ils dire... Ils peuvent prendre leur marque, effectivement. Oui.
Exactement.
Mais ouais. je trouve qu'après, Pierre Sage reste sur un même 11. Après, je ne sais pas, je suis toujours un peu circonspect, moi, de la deuxième partie de Lyon. Ils ont fait une super remontada, mais... je suis pas emballé par certains joueurs, surtout certains joueurs qui vont acheter. Je suis toujours un peu mi-figue, mi-raisin. Et quelque part, finir 9e, c'est au vu de la deuxième partie de saison exceptionnelle, mais au vu d'une saison globale, c'est quand même très décevant au niveau du budget et de ce que peut représenter Lyon. Maintenant, j'ai envie de voir l'année prochaine. J'ai envie de voir si si Lyon va confirmer sa remontada ou si Lyon va confirmer plutôt une sorte de place un peu au milieu de tableau, moyen plus, quoi. Mais le problème, c'est qu'ils ont quand même un budget et des dépenses qui sont pas à ce niveau de 9e, quoi.
Bah, le gros souci de Lyon, c'est que s'ils ne décrochent pas une place européenne, même une Conference League, alors que en direct live, Yadiche est sorti sur blessure et Zegrova est rentré pour le suppléer. Je vais pas dire qu'on part sur un nouvel accident industriel, hein, dire le FC Conta va entrer en jeu, le changement réalisé. Et Carlos et moi, on va pouvoir sortir nos calculettes. Mais ça veut dire encore des ventes de joueurs, parce que ça a beaucoup dépensé cet hiver. Mmh. Si tu n'as pas une qualification européenne, tu as quand même une équipe, pour moi, qui est presque surdimensionnée pour ne jouer que la Ligue 1 et la Coupe de France. Donc, il va falloir faire du ménage, sachant qu'il faudra quand même recruter derrière. Je pense qu'il y a quand même pas mal de clubs, c'est un petit peu le cas. Tu prends Rennes, tu prends Paris, ça doit recruter aussi derrière. Tu prends Marseille, c'est compliqué aussi. C'est bon, ça pourrait être assez dangereux pour eux. Et je vais même te dire, raisonner en disant, on fait des matchs d'entraînement pour préparer la Coupe de France, c'est limite la meilleure solution pour tout perdre. Moi, je pense quand même que Lyon, ils devraient plus qu'assurer leur dernier match pour au moins aller à la finale de la Coupe de France, l'esprit libre, en disant on prend le trophée et la qualif européenne, finalement, on l'a déjà en poche. Quoi.
Mais après, est-ce que comment est-ce que je vais te dire ça ? La somme d'efforts mis en place depuis trois, quatre mois commence à se faire ressentir. Et est-ce que, quelque part, il y avait vraiment le stress de la relégation? Parce qu'il faut se dire qu'à un moment donné, quand même, tout le monde voyait Lyon en deuxième division et que l'effort fourni, en fait, les a tellement pompés au niveau de l'énergie. Est-ce qu'ils sont encore capables de fournir un tel effort, sachant qu'en plus, tu as quand même le spectre de la Coupe de France qui peut venir, quoi, tu vois. C'est des choses en fait que tu ne conscientises pas forcément comme ça, mais qui peuvent se jouer, quoi. Tu te dis, à voir. Et puis après, c'est-à-dire que Lille. Il faut quand même aussi dire une chose, je suis quand même très dur sur les Lyonnais, ils viennent de passer les quatre premiers, ils ont quand même gagné face à Monaco et face à Brest, et ils ont juste perdu face à Paris, et que face aux quatre premiers, si tu arrives à décrocher déjà 6 points, déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Après, tu n'as plus que Strasbourg et Clermont. Tu peux te dire que tu peux envisager 6 points sur tes 2 derniers matchs. Donc,
Clermont qui est
dernier.
Qui va jouer son va-tout. Mais c'est.
Oui, il y a peut-être des joueurs qui vont essayer de se montrer, surtout à Clermont.
Ça restera compliqué. Et Strasbourg, là, pour le coup, ils sont déjà en claquettes chaussettes. Hein.
C'est ça.
Parce qu'on rappellera qu'un Strasbourgeois est quand même plus allemand que français. Hein.
Oh là là, attention.
Voilà, comment mettre de l'huile sur le feu.
Oh là là, mes origines alsaciennes se hérissent, là. J'ai le poil qui se hérisse, là, cher monsieur.
Bah, c'est pas à toi qui a fait plus d'histoire que moi dans ta vie. Je vais apprendre que l'Alsace a quand même été plus souvent prussienne que française. Hein.
Ouais, c'est plus compliqué que ça.
C'est ça. De toute façon, l'histoire, c'est souvent très, très.
Voilà, c'est plus compliqué
que de faire.
Mais laissons les peuples, comment dire, disposer d'eux-mêmes. Hein. Voilà, ne soyons pas trop russes dans nos analyses.
Exactement.
Voilà. Vous avez été russe, vous serez russe. Vous avez été français, vous serez français ou allemand, ou je ne sais quoi. Voilà. C'est ça a toujours posé des problèmes, ça.
À part pour les bourguignons qui resteront bourguignons.
Il faut le savoir. Bah on le sait. Les,
voilà. C'est la plus belle région de France.
Hein. Oui, oui.
Celle qui pourrait être indépendante.
Qui ont toujours combattu le roi de France, on le sait. On les connaît, les ducs de Bourgogne, monsieur. Hein. D'ailleurs, la Bourgogne qui possédait la Flandre. Donc, Lille était bourguignon à une époque.
Et on possédait la France directement. On vous l'a rendue.
Parce que nous, les Bretons, on n'était pas là encore. Bon, on ne va pas faire d'histoire maintenant. Mais...
C'était l'interlude.
C'était Passion médiéviste avec Fanny.
Passion médiéviste, ouais, très bon podcast. Je vous invite. Je vous invite à écouter le Super Joute Royale de Passion médiéviste si vous aimez les rois de France. Enfin, si vous aimez pas non plus, mais voilà, ça remet, disons, les rois de France à leur place depuis tout au long du Moyen Âge, et c'est très très intéressant. Voilà.
Exactement.
Donc, voilà,
Jérôme Leroy du Stade.
J'attends évidemment leur super joute royale sur les ducs de Bourgogne.
Vous n'allez pas nous casser les noix avec vos bretons de chi, là, c'est pas possible.
Non, non, mais ils se sont engagés à faire un super joute royal sur les ducs de Bourgogne. Bon, allez, on est déjà à 27 minutes, là, parlons de football plutôt que...
Exactement, on va revenir à certains matchs en particulier. Vu que t'es là, mon Jérôme, est-ce que tu as un petit mot à nous dire sur ce Metz-Rennes qui a été riche en buts?
Vous avez acheté l'arbitre à coup de galette saucisse, c'est honteux. J'ai jamais vu ça de ma vie.
Mais n'importe quoi. Déjà qu'il y a un pénalty oublié sur le coup franc de Bourigeaud, là. Le Messin qui met bien son coude pour dévier le ballon. Mais bon, voilà, on l'a dit déjà, là, par le carton rouge de Mikotadze qui n'est pas normal. Bon, le Rennes a gagné de manière à la Rennes, quoi, c'est-à-dire en prenant d'abord deux buts, puis on en marque en trois. Mais Julien Stéphan, l'a rappelé en conférence de presse, il faut être proactif. Alors, je veux bien, mais au bout d'un moment, il faut quand même s'occuper de cette défense. Donc voilà, on connaît la faiblesse des Rennais, c'est la défense. Et puis il va falloir changer ça avec ou sans Europe l'année prochaine. Je pense que toute la défense va être... je regardais une émission spéciale... Rennes, justement, où les journalistes locaux disaient que toute la défense va être remaniée. Donc,
il n'y a qu'un seul joueur qui est.
Non, ils sont tous.
Bah, Théâtre, quand même.
Là, il y a Théâtre, mais où il ne fait pas mieux qu'Omari. Après, Mandanda, qui fait la boulette sur le deuxième but de Messin, parce qu'il n'a pas à être là, quoi. Oui. Il se fait lober comme un poussin, comme on dirait.
Très belle action quand même de Mikotadze, parce que il y en a beaucoup qui auraient tiré à côté.
Mais en même temps, il profite. Enfin, voilà, qu'un attaquant soit efficace, c'est ce qu'on attend de lui. Après, il profite de deux boulettes, un du défenseur, deux du gardien. Enfin, c'est voilà. Après, qu'on pourrait parler de Aubameyang avec Marseille qui rate un but tout fait. C'est le but d'un attaquant, c'est marquer des buts. Donc oui, il voit très bien il met le lobe comme il lobe Mandanda comme il faut, mais c'est son rôle. Mais voilà. Bon, c'est vrai qu'on n'attendait pas forcément ça à Metz, mais tant mieux pour eux. Mais voilà, il faudra revoir toute la ligne arrière, c'est pas possible, quoi. Et puis,
En tout cas, victoire méritée, parce que comme vous pouvez le voir sur le petit graphique, toute la partie en jaune, c'est à l'avantage de Rennes.
La première mi-temps est rennaise, hein. Il n'y a pas photo. Hein. La première mi-temps, et pourtant, Rennes est menée à la mi-temps, mais elle est rennaise, la première mi-temps, ça c'est clair.
Voilà, c'est, je vois quand même que c'est quand même Rennes qui a eu le pied sur le ballon. Mm. Tu as quand même deux IG, tu as 21 tirs, 9 cadrés. Voilà, il y a eu de l'occasion. On retrouve la force offensive de Rennes qui leur faisait un petit peu défaut sur ces derniers matchs. Et bizarrement, quand devant ça se bouge les miches et que ça commence à remarquer un petit peu des buts, bah, tout de suite, c'est quand même plus simple de gagner des matchs de football.
Oui, mais
tu t'en, 2-0 tu t'en prends, et 2-0 pour Lille avec Zegrova qui crucifie.
Ah, Zegrova, mais pourquoi Zegrova n'était pas sur le terrain, c'est ça que je comprends
c'est,
pas.
C'est une des bonnes questions de ce début.
Sur les derniers matchs parce,
il revient blessé.
Moi, je pense que c'est un choix
tactique.
C'est un choix physique aussi, après, c'est...
Ah, je sais pas comment tu peux te passer de ce joueur parce que franchement
c'est pareil, les niveaux physiques il faut tenir sur une saison quoi. Tu peux avoir quelque part des trous physiques ou des un peu moins dedans au niveau du match. Donc voilà. On peut faire un coucou. Alors apparemment il y a quelqu'un qui nous suit et qui s'appelle Louis et qui nous dit qu'en fait qui me demandait si je ne disais rien sur la tactique rennaise. Oh, en même temps, une tactique d'équipe de Ligue 2, est-ce qu'on peut la décrypter ou pas?
Alors ça, et je sens le... T'sais, c'est le mec qui lance son hameçon, là. Tactique de Ligue 2, tu vois, il est en train de nous titiller, là, avec son... Il est en train de nous appâter, là. Hein, tactique de Ligue 2, je dis rien, mais je parlerai Ligue 2 tout à l'heure, c'est ça?
Ah bon
hein? Non, on vous connaît, monsieur Misère. On vous connaît, on connaît vos. C'est pas possible. On connaît vos manières de faire. C'est incroyable. Vous êtes indécrottable.
Exactement.
Je pense qu'on pourra pas mieux dire. Bon, pas forcément besoin de s'apesantir plus que ça, ni sur
non,
le
non,
match.
Mais
de,
voilà.
De
mais
Lens,
le problème, c'est qu'il faut mettre trois buts. Qu'il faut mettre trois buts pour gagner 3-2. Quoi. C'est, enfin, voilà. C'est la défense. La défense est merdique et on le sait maintenant. C'est voilà. Ça a été validé tout ce qu'on disait depuis. Voilà.
Donc, comme on l'a dit tout à l'heure. Même si Mikotadze a pris son rouge, a priori, bon, apparemment, il a fallu un petit peu plus de temps à Buquet pour qu'il puisse réfléchir, hein, parce qu'il a été appelé par la VAR pour lui dire, bah, ton rouge, il est un petit peu sévère. Et il fait, non, il n'est pas sévère, je le maintiens. Bon, bah, tant pis. Heureusement que c'était fin du match et ça n'a pas plus pesé que ça. Mais on pouvait avoir peur pour Metz d'être privé de son serial buteur, parce qu'on va rappeler que Mikotadze est revenu de l'Ajax au mercato d'hiver, et que le monsieur est à 12 buts et quelques passes décisives. Donc, c'est quelqu'un qui vaut quasiment un 24-25 buts sur une saison. Si
12 buts, c'est ce qu'a mis Kenny Mwendo aussi depuis.
C'est, je crois, le joueur... La reprise. Depuis le mois de janvier, le plus décisif en Europe, quasiment. C'est bien sur le nombre de passes D et buts en même temps.
Enfin, en temps de jeu, c'est Gonzalo Ramos. Mais parce que Mikotadze, il fait des matchs de 90 minutes, ce qui n'est pas forcément le cas toujours de Gonzalo.
Mais comme tu le dis, il faut une intelligence sur son but, sur son lob. C'est l'intelligence du buteur. Mais c'est ce qu'on demande à tous les buteurs, c'est d'être intelligent face au but, quoi. Enfin, face au but, face au gardien. Enfin, je veux dire dans le sens, voilà.
Et donc a priori, la commission de discipline devrait être clémente parce que apparemment Buquet a mis dans son rapport. Sur le fait que
c'est bien qu'il faut, enfin, quand un arbitre se trompe et qu'il le dit, c'est quand même toujours bien de le
mettre. Oui, mais après c'est bien s'il n'est pas sanctionné. Enfin, si après il prend pas, est-ce qu'il le dit parce qu'il va pas être sûr d'être sanctionné au prochain match? Enfin, il y a ça aussi là. On sait comment fonctionne la commission des arbitres. Donc, si un arbitre revient sur sa décision en disant qu'il s'est trompé, puis qu'il va être sanctionné lui-même parce que il s'est trompé. C'est un peu, ça devient, enfin c'est kafkaïen quoi. C'est, donc
ça devient le souci, oui,
De non, mais je veux dire, là, est-ce qu'il le dit parce que justement il reste que deux matchs et que de toute façon les arbitres sont déjà désignés pour les matchs, j'en sais rien, mais.
Non, mais surtout, c'est que Buquet fait partie des arbitres un peu référence.
Oui, voilà, donc lui.
Du championnat de France, lui, ouais. Il risque rien à. Parce que je crois que t'as qu'un seul arbitre qui descend à l'étage du dessous. Et donc, là, typiquement, une frappe part. Elle mérite plus d'aller refaire quelques séances de sifflet au niveau de la Ligue 2 que.
Oui, mais regarde, par exemple, Turpin qui est, on peut faire une petite digression sur le niveau des arbitres. Turpin qui va aller arbitrer en Ligue des Champions, qui est en Ligue des Champions. Alors, car ça s'est quand même pas si mal passé que ça.
Ah, ça s'est même très bien passé, même la semaine d'avant.
Mais parce qu'il a suivi les consignes de la Ligue des Champions. Le problème des arbitres en Ligue 1, c'est pas qu'ils sont mauvais, c'est qu'ils ont des consignes à la con qu'on leur impose tous les week-ends.
Mais je suis d'accord. Et c'est le système de notation qui fait qu'en gros, tu as la VAR et un système de sanctions et non pas un système d'aide, de rattrapage. Tu vois, c'est toujours.
Mais t'as bien vu le changement au niveau de la Ligue 1, parce que à un moment t'avais des matchs, c'était sifflé toutes les 5 minutes, enfin les matchs étaient hachés, alors qu'en Europe les arbitres laissaient jouer. On a bien vu que lui est toujours sur le sifflet, prêt à siffler le moindre coup d'épaule quoi que ce soit. Et là, en Ligue des Champions, il a laissé jouer. C'est parce qu'ils ont des consignes, c'est tout.
Après, sur les arbitres, ce qu'on leur reprochait surtout, c'est le manque de cohérence. Et je pense que d'une journée sur l'autre, comme sur toute corporation, tu devais sûrement avoir des réunions, voir ce qui s'était bien passé, ce qui s'était mal passé, et en disant, sur ce style d'action, les gars, faut siffler. Et sur les prochaines journées, faites attention. Mmh. Et donc, finalement, toi, ce que tu te souviens, c'est que quand ton club, il y a 2-3 journées, il y a eu cette action-là et que ça n'a pas été sifflé et que là, c'est contre toi, tu as la même situation et qu'elle est sifflée contre toi, tu as un sentiment de te faire léser. Mmh. Et c'est toujours les sentiments. Et le sentiment est toujours compliqué à battre en défaut.
Oui, et puis surtout par rapport à la VAR qui s'explique jamais. En fait, c'est ça qui est un peu pénible.
Mais la VAR n'a pas à s'expliquer. Je l'ai dit et je le redis, toutes les actions sont checkées et l'arbitre central est appelé dans son oreillette si la VAR sent qu'il y a une possibilité de s'être trompé. Et toutes les actions sont checkées. C'est pour ça que, la VAR, elle n'a pas checké. Si les deux mecs dans le camion, ils sont d'accord avec l'arbitre central, ils sont trois à être d'accord. Et donc, le jeu continue. C'est forcément checké. La pub pour Burger King où tu as les mecs qui sont allés commander le truc.
Je suis d'accord avec toi, mais parfois, tu as quand même des. Voilà. Moi, je te parle justement le coup franc de Bourigeaud où le médecin met son coude. Enfin, tu as le coude qui est. Voilà, qui est dehors et qui dévie la balle. Tu peux pas dire là, le joueur se protège ou fait quoi que ce soit. Il met son coude.
En Ligue des Champions, Sabitzer, il met le coude et il ouvre la lèvre à Lucas Hernandez. Il n'y a pas eu pénalty non plus.
Donc, là, c'est le ballon qui est détourné. Bon, on ne va pas épiloguer, mais bon.
Ah oui, sur ce coup franc-là. Là, le bras, non. Voilà, pour le coup, non. Là, je suis tout à fait d'accord avec les arbitres. C'est que le bras est contre le buste. Non.
Ah non, il n'est pas contre le buste puisqu'il le lève. Il le lève au moment où il saute.
Ouais, mais si tu fais ce mouvement-là, c'est. Là, pour le coup, non. Il y a des pénalties qui sont bien plus scandaleux que ce. Ouais. De toute façon, sur les bras, c'est toujours compliqué, quoi. Même si vrai qu'il y a un mouvement, mais t'as pas une augmentation manifeste de la surface corporelle. Quoi. C'est pas le mec il fait pas un arrêt de handball non plus. Quoi. Qu'est-ce qu'il nous reste à dire sur cette petite journée un petit peu raccourcie? On va quand même parler un petit peu de Brest qui tire la langue. La saison est difficile à terminer. On s'en doutait, il y avait quand même eu des.
Après, c'est le jeu quand même.
Il s'était bien repris sur des matchs, il s'était battu. une fois c'était contre eux, une autre fois où ils renversaient le score et qu'ils gagnaient 5-4. Mais là, tu sens qu'il y a peut-être le psychique qui commence à rattraper un petit peu le physique. Hein. On va faire le barbecue psycho, ça nous était pas arrivé depuis un petit moment. Mais là, dans la même mi-temps, tu as Les Melou qui sort blessé. Alors, on n'a pas vu passer une éventuelle absence sur le prochain match ou est-ce que ta saison terminée parce que c'est musculaire. Tu as Del Castillo qui sort aussi. Et là, d'un seul coup, c'est pas Brest qui jouait, c'était Concarneau, quoi. On les a pas reconnus parce que si on remet le dashboard sur les résultats, même s'il y a un nombre de tirs, même si au niveau du pressing Brest récupère plus souvent le ballon, on regarde quand même que sur les X points, c'est-à-dire qui est fonction finalement des XG et un peu des actions. On met un ordinateur, on lui fait évoluer avec les XG en forme de variable aléatoire, et donc tu fais un nombre de matchs, tu les simules 10, 100 000 fois, et tu regardes et tu pondères les résultats. Ben, on voit que Nantes doit prendre 2 points en moyenne sur ce match. Alors que Brest, c'est 0,71. Donc, Brest, finalement, qui s'en tire avec un match nul, c'est quand même... je ne veux pas dire que c'est volé, mais presque. C'est pas volé, parce qu'on en a parlé entre nous avant le début de l'émission. Nantes est à cette place-là, parce qu'ils ont juste des attaquants qui ne savent pas marquer des buts. Hein. Si Abline, il est prêté à Nantes, c'est bien parce qu'il est trop limité, le garçon, pour jouer à Rennes. Surtout à Rennes, quand on voit la force offensive du Stade Rennais, Abline, il avait peut-être mis quelques buts sur les journées d'avant qui pouvaient être utiles. Là, il croque quand même la feuille de match au moins sur 2 occasions. C'est quand même compliqué. De toute façon, on le voit. Hein. C'est-à-dire que Nantes, t'as qu'un seul tir cadré. Hein. Donc, c'est quand même, on rappelle qu'il y a peu d'équipes qui réussissent à mettre des buts sans cadrer des frappes. Hein.
Après Nantes, ils avaient mis le bus derrière, et tu sens que Brest, c'était difficile de créer quelque chose. Tu sens que, moi je me souviens du match face à l'OL, tu commences un peu où les équipes jouent un peu plus naturellement. Tu sens que Brest est plus à l'aise dans ce jeu de transition,
Même s'ils ont su prendre un peu le jeu à leur compte, mais là, quand t'as Les Melou pas là et Del Castillo non plus, t'es quand même tes deux meneurs de jeu, tes deux créatifs, et là, il n'y a plus rien, quoi. Et donc, je remets sur la table, c'est qu'avec un Brest, j'espère qu'ils vont se renforcer à l'intersaison, surtout si t'as une qualif en Ligue des Champions ou au minimum en préliminaire. J'espère que ça va se renforcer parce que si tu as Les Melou qui s'en va pour un plus haut club et qui fait x10 sur son salaire, ça va être très très compliqué. Hein. C'est-à-dire que si tu dois à la fois gérer un match tous les 3 jours, Champions League, où on a vu que des équipes sont
League,
déjà habituées un peu à l'Europe. Comme Lens, comme Lille, tu perds des plumes. Qu'est-ce que ça va être Brest? Même si ils méritent ce qui leur arrive, hein, tu mérites d'être en Europe, mais est-ce qu'on ne va pas assister à des équipes qui étaient européennes, comme Nantes, qui l'année où ils se qualifient même en 16e de finale, qui se font éliminer par la Juve, ils ne sont pas loin de descendre. Est-ce qu'on ne va pas assister un peu à la même chose avec Brest l'année prochaine, quoi? Moi, j'ai un peu peur pour eux. C'est dans ce sens-là où ça va presque trop vite et que le club est absolument pas dimensionné pour pouvoir tout jouer, quoi.
Mais plus que la Champions League ou enfin le niveau, c'est comme tu dis, c'est les matchs tous les 3 jours. Tu vas te retrouver avec des joueurs qui sont pas conditionnés pour jouer tous les 3 jours. Et ça, c'est problématique, quoi, parce que. Tu dois être prêt, quoi. Tu dois être prêt dès jour 1. T'as le Alors, tout dépend s'ils font des qualifs. Bon, s'ils font des qualifs Champions League pour redescendre en Europa League, ils auront un ou deux matchs. Ben, pardon. Un ou deux, une ou deux journées. Enfin, une ou deux. Un ou deux tours, pardon.
Ah, ben, ils ont, oui, deux tours. Ils rentrent en troisième. Oui.
Non, mais c'est-à-dire s'ils sont éliminés au premier tour de Champions League, ils vont faire le tour d'Europa League, etc.
C'est ça.
Et au pire, ils seront en Conference League. Mais quand bien même, et après, je sais pas si c'est le barrage de conférence, enfin bon, quand bien même.
Si t'es en troisième tour préliminaire, si t'es éliminé, tu passes en barrage d'Europa League. Et si t'es éliminé, quoi qu'il arrive, t'es en phase de groupe de conférence.
Ouais, t'as pas le. Parce qu'il y a toujours un barrage en Conference League, non?
Oui, t'en as, oui. Mais tu étais forcément en phase de groupe. Dire, ouais. Si tu étais qualifié en Champions, tu as forcément une Coupe d'Europe, même si c'est la Coupe d'Europe la petite.
Oui, c'était le cas de. Qu'est-ce que c'était ce club là, des îles Féroé, ou je sais plus quoi là, qui.
C'est le club qui a affronté Lille.
Oui, c'est ça.
En phase de groupe.
Oui, qui était en qualif de Champions League et qui a fini en Conference League. Enfin, c'était leur première fois. Mais voilà, et surtout, il va falloir être prêt. Donc déjà pour les tours de qualif, et puis il va falloir être prêt pour parce que c'est un mini championnat qui commence et faut être prêt quoi. Ouais. Premier match, ok, tu peux tomber contre une équipe pas terrible, mais tu peux tomber aussi sur une équipe le 7e ou 8e de Première Ligue ou de Bundesliga ou de d'Espagne, d'Italie, etc. Enfin non, ça va être compliqué. Et de jouer tous les trois jours, parce que comme tu dis, c'est ça, c'est qu'il faut être prêt à jouer tous les trois jours.
Parce que là, à la limite, c'est même pour une pour la préparation de la saison, être dans les trois premiers, donc être en phase de groupe de Ligue des Champions, même si c'est compliqué d'appeler ça phase de groupe dans cette nouvelle mouture de la Ligue des Champions, être quatrième, c'est-à-dire les tours préliminaires, on l'a vu avec Marseille, c'est qu'il faut être prêt fin juillet. Et là, tu sors d'un euro, donc tu vas... Alors, même si Brest, normalement, ne devrait pas forcément avoir beaucoup de joueurs sélectionnés pour l'Euro.
Oui, elle peut aller chercher des joueurs dans des petites équipes qui vont jouer l'Euro.
T'as les JO derrière. Donc, est-ce qu'il y a des joueurs de Brest, est-ce qu'ils ont des petits jeunes qui pourraient être sélectionnés? On ne sait pas. Donc, c'est vrai que c'est quoi qu'il arrive, c'est une saison un peu particulière. Et tu dois être prêt fin juin. Et on a vu que Marseille a eu du mal.
Après, ce qui va être aussi dur, je pense, ça va être que toutes les équipes vont les attendre. Hein. C'est-à-dire que c'est ça aussi que le statut va changer. C'est là où je crains un peu plus, tu vois, la gestion de Brest. C'est que l'équipe surprise où tu peux essayer de créer du jeu et essayer de créer quelque chose. Et bon, Brest. Avec les forces qu'ils avaient, étaient quand même plutôt bien structurés et arrivaient à jouer en transition et à marquer beaucoup de buts. Là, tu vas rentrer dans un statut de favori et on voit que généralement, faire du jeu est quelque chose de beaucoup plus compliqué. Donc, ils ont réussi à le faire durant la saison, mais avec la répétition des efforts et faire ça sur toute une saison, je pense qu'ils n'arriveront pas à. Il faut pas se voiler la face. Ils n'arriveront pas à faire troisième, quatrième la saison prochaine. Ils resteront peut-être sur une bonne série. Ils feront peut-être 6-7e, ce qui sera déjà très bien pour eux. Et peut-être pouvoir ancrer dans le club dans la première partie de saison. Ce sera déjà quelque chose de plutôt positif. Ce qu'expliquait là.
Avoir un parcours un peu comme Reims, quoi.
Mais ce qui expliquait les dirigeants, c'était quand ils sont repartis il y a quelques années, ils avaient à peine 9 joueurs, quoi. C'est-à-dire qu'ils ont dû tout reconstruire de zéro. Et ils jouaient en National 2, ou je sais plus. Enfin, ils jouaient quand même assez bas. Et ils ont mis vraiment du temps. Ils ont essayé. Alors, comme vous disiez très justement, cette saison-là, c'est peut-être un peu. Ça s'est un peu trop emballé, mais qu'ils profitent, que l'année prochaine, ils profitent de la Coupe d'Europe. Ça sera quand même pour certains joueurs, peut-être la seule fois, ils pourront jouer en Coupe d'Europe de leur vie. Ils emmagasineront de l'expérience. Et simplement, bah, faire comme Reims, oui. Reims, on a beau dire ce qu'on veut, mais c'est quand même un bon exemple.
C'est l'exemple type de l'équipe qui est montée de Ligue 2 et qui se maintient en Ligue 1 toujours aux abords de l'Europe, dans le ventre mou, mais qui est jamais trop concernée par le maintien. La Reims, ils n'ont pas à s'inquiéter à deux journées de la fin.
Tu sens qu'il leur manque quelque chose, pas grand-chose pour pouvoir basculer sur essayer d'avoir une place européenne. Mais c'est pas.
Pour moi, ils doivent prendre exemple sur Toulouse. Toulouse qui a participé, qui a été très loin, ils n'ont pas du tout été ridicules sur leur parcours européen. Tu te fais sortir de peu par Benfica, mais il y a vraiment la place si tu es un peu plus efficace devant le but. Et t'as pas fait des investissements de malade, tu sais qui tu es. C'est vrai que Brest, pour le coup,
ouais, mais
j'espère qu'ils garderont un peu cet esprit en disant c'est quelque chose, c'est de la surperformance niveau maximal. Si on reprend les chiffres, c'est-à-dire que pour le coup, ils sont pas beaucoup plus en surperformance que Paris, même moins. Mais voilà, tu vois, à l'arrivée, ils sont seulement ils ont 4 points de plus que l'attendu en expected points. Et tu prends Paris, Paris est quasiment à 10 points. Donc, de plus que de l'attendu. Donc après, c'est la marque des grandes équipes. Quasiment toute la Ligue 1, à part 5 clubs, est en sous-performance, par contre. Ouais. C'est autre chose.
Mais tu vois, par rapport à Toulouse, je ne suis pas sûr que ce soit le même modèle sportif et économique. Tu vois, je rapprocherais plus de Reims, parce que, comme tu le dis, sur un modèle économique et sportif, c'est plus, disons, un club géré un peu à l'ancienne, tu vois, géré... Toulouse, ils ont quand même, c'est par rapport aux propriétaires, par rapport à leur manière de recruter, parce que c'est les data, Football Manager et compagnie, Donc, mais en effet, il faut structurer le club et puis il faut surtout, je sais pas si par exemple tu vois un Les Mélou serait capable de jouer 2 matchs par semaine.
Après, si un Les Mélou par exemple il est recruté par Paris, le mec il vient pas pour faire titulaire à tous les matchs, mais il vient s'inscrire dans une rotation. Si Les Mélou signe à Rennes par exemple, s'il avait signé à Rennes. Il aurait été titulaire indiscutable à Rennes.
Ah bah oui, bien sûr. Ah oui. Oui. Je pense oui, parce que indiscutable, puisqu'on a vu la Matuziwa qui est pas du tout le même profil, qui est beaucoup plus bas. Mais si on avait pris un Les Mélou, oui, on l'aurait mis indiscutable. Et ça aurait été justement la pièce. Enfin, au milieu de terrain, en ayant Santa Maria et Le Fay derrière, et justement Les Mélou un peu au milieu, je sais pas, c'est le gars, et puis je pense lui aussi, il réfléchit beaucoup, parce que...
Ouais, mais c'est ça finalement, c'est que tu prends Les Mélou, il a fait une saison qui est vraiment excellente. Il y en a même certains qui disent, vu notre déficit en équipe de France au milieu de terrain, est-ce qu'un Les Mélou peut pas être une des surprises de Didier Deschamps, surtout avec la liste élargie à 26, parce que tu lui fais pas,
Logique.
Donc finalement, tu dis, qu'est-ce que c'est l'équipe, le niveau de l'équipe maxi, par exemple en Ligue 1, qui peut prendre un Les Mélou? Est-ce que ça peut être titulaire à Marseille actuellement? Oui.
Oui.
Ouais, mais parce que t'as
sur le flanc.
Il faut pas oublier que Les Mélou est déjà parti à l'étranger. et qui ne s'est pas imposé une première fois dans un club un peu plus huppé que là.
Bah, mais là, il a quand même pris une dimension là, cette saison. Oui, oui. Il a aussi pris confiance en lui.
Mais après, on le connaissait.
Il s'est inscrit dans un projet de jeu, bien sûr. Mais,
enfin, ce que je veux dire, c'est que il y a des fois, il y a des joueurs aussi qui se plaisent dans des clubs un peu intermédiaires parce que tu as moins de pression.
Il a été à Nice quand même. Il était à Nice, Lesmelou, c'était quand même un joueur sur lequel on comptait. Enfin,
moi, mais il est parti à Norwich, et à Norwich, en Angleterre, il n'a plus rien fait. C'est-à-dire que là où tu as une pression.
Il a rejoint la congrégation des joueurs français partis en Angleterre pour échouer.
Oui, mais peut-être.
Quand même justement.
À Norwich, en plus, qu'est-ce que c'est au foot à Norwich, quoi.
Mais en même temps, tu vois.
Si c'est l'année où ils sont montés ou c'est l'année où ils ont fait l'ascenseur
Non.
Peut-être, non. Même pas, non, si.
Je vais vous dire ça tout
de suite. Possible. Mais en tout cas, il était.
Ils étaient en première ligue. Ils étaient en première ligue.
Donc c'est l'année où ils font vraiment. Oui, ouais. Ils font l'ascenseur. Quoi.
Mais du coup, c'est quand même. Tu vois, tu as des clubs. Tu as Kevin Lala. Tu le vois jouer à Brest, c'est un excellent arrière droit. Quand il était
à Strasbourg, il a fait deux très bonnes saisons à Strasbourg.
On a vu partir, il devait partir à je ne sais plus quel club, là, il devait partir à l'étranger.
Il n'était pas en Allemagne, lui, non? Ah, c'est pas le
après,
coup.
Il est parti à l'Olympiakos après.
Mais c'est pas lui où il y avait une histoire d'enveloppe ou je sais pas quoi. Non, c'était pas lui.
Je sais plus. Il était annoncé, je sais plus dans quel club.
Dans un club allemand. En fait, il voulait une enveloppe. Enfin, j'avais lu que le frère ou l'agent avait voulu de l'argent dans une enveloppe et que le club allemand avait dit non, allez vous faire foutre. Nous, on fait pas ça. Enfin, avoir une partie du transfert.
Ouais. Mais tu vois, Mounier, c'est pareil. Mounier, c'est un revenant. Lui, il est parti quand même à Huddersfield, alors qu'il était quand même, je veux dire, à Montpellier, ça se passait plutôt pas mal. Il est parti trois ans en Angleterre où ça n'a rien donné. Et quand tu vois, quand tu le vois renaître à Brest, tu vois, c'est des joueurs après.
Peut-être les mecs aussi, non, mais attends, quand tu.
Bref, c'est la bonne taille, quoi.
Quand tu te retrouves en Angleterre, en Championship ou en Première Ligue, dans des clubs de, enfin, je sais pas, le mec qui, t'imagines un Français qui a joué à Sheffield cette année, c'est la pire saison qu'ils ont fait en Première Ligue, c'est la pire saison de croix d'un club depuis 1908-1909. C'est hallucinant, ils ont perdu, ils ont un différentiel de but hallucinant. Toi, en tant que petit Français, tu dis tiens, je vais aller dans un club anglais, je veux bien gagner ma vie. Tu te retrouves là-bas, mais tu te remets en question. Enfin, je pense que soit ça peut être démotivant parce que tu vas te dire, je vais jamais y arriver. Soit tu peux dire, on arrête les conneries maintenant et puis on essaie de retourner en Ligue 1 où il y a quand même des choses qui fonctionnent, même si, tu te retrouves pas, tu vois.
Oui, mais après, c'est que la pression, par exemple, du résultat, comme tu peux avoir à Rennes, où quand tu pars en début de saison, tu es au moins fait pour aller en Ligue Europa, au moins être européen, ou voire même des clubs plus importants comme Marseille ou Lyon, quelque part, où tu n'es pas Paris parce que c'est encore le stade au-dessus. Mais il y a des joueurs qui, quelque part, qui vont moins supporter cette pression-là que quand tu es à Brest où tu joues simplement le maintien.
Oui,
c'est... Et c'est pas du jeu plaisir, mais quasiment, quoi. C'est-à-dire qu'on n'attend rien de toi et tu es là aussi pour porter le club et faire que, si tout se passe bien, tu vas vivre une bonne saison, tu vas pouvoir faire des stats et tout ça. Mais c'est aussi, tu vois, il faut aussi l'accepter, tu vois, tu as des joueurs qui sont pas forcément faits.
De toute façon, non, mais en tant que joueur, j'imagine que t'es formaté aussi depuis. Enfin, tu vois, c'est comme dans le boulot. Tu te dis, si je n'avance pas, tu vois, tu recules, quoi. Et de dire qu'une progression pour un joueur, c'est comme tu vois les grands joueurs. quand tu vois Mbappé, Zidane et compagnie, te dire ben voilà, je vais d'un club un peu moyen vers un club un peu plus important, mais, puis encore.
Mais si ta limite est sur ce club moyen et que tu peux.
Oui, mais voilà, mais c'est à toi de te rendre compte.
Mais c'est aussi, il y a des fois, moi je me souviens toujours, c'était cet attaquant à Nice. Qui avait un drôle de nom, là, l'Argentin, Sitavic, aidez-moi.
Ah oui.
Qui a fait.
Vitanic, je vois.
Qui a fait deux saisons, en fait, qui arrive à Nice, qui fait une super saison, et on se dit, il veut déjà partir au bout d'un an, Nice veut le vendre.
Vitanic, ça faisait un truc. Oui, ça faisait un peu argentin, on est d'accord.
Ça faisait pas très argentin.
C'est très argentin.
Et du coup, en fait, on en a tellement attendu.
Après la Deuxième Guerre mondiale.
C'est ça. Voilà, on se comprend. Mais du coup, qui est resté en fait 2 ans, et la deuxième année, c'est une vraie catastrophe, parce que le statut a changé. Tu sentais que le joueur avait déjà atteint son plafond de verre et qu'on en demandait vachement plus, alors que bah quelque part il y a eu une sorte de sous-performance sur ce joueur-là qui leur a peut-être été. Enfin, tu vois,
c'est aussi le truc des joueurs qui explosent et on peut pas leur en vouloir aussi. Alors parce que vous raisonnez beaucoup sur l'aspect sportif, mais il y en a beaucoup. L'occasion de mettre la daronne à l'abri, quoi.
Je vais jamais critiquer un joueur.
On l'a toujours dit, hein, Pierre Lesmélou, il savait, je pense, il voyait ce qui se passait avec Brest, il voyait que ça tournait bien, il voyait que ça pouvait, même si les mecs, ils s'en cachent et qui, même deuxième du classement, ils disaient attention, il faut à la relégation, le mec, il avait déjà ses valises qui étaient prêtes et lui, il voulait aller à Rennes, même si sur le classement final, il y avait quand même pas mal de risques que Rennes soit derrière Brest.
Mais
il a juste vu, j'ai l'occasion de me faire 300 000 balles par mois et de prendre un dernier beau contrat.
Je vais te dire quelque chose qui va énormément choquer peut-être les amoureux du foot. Mais tu as Pierre Lesmélou, admettons, tu as un club d'Arabie Saoudite qui arrive.
Le mec y va.
Et puis qui pour lui jeter la pierre?
Il y a plein de gens qui lui jetteront la pierre. Ils diront, il préfère prendre l'argent que d'aider en Ligue des Champions.
Ceux qui disent ça, on leur met trois fois un chèque par rapport au salaire de ce qu'ils touchent.
Les gens de Twitter et des réseaux sociaux, on ne les achète pas, monsieur.
On ne les achète pas.
Non, l'argent ne compte pas. C'est le romantisme du football.
On
rigole. C'est-à-dire, les mecs, ils vendraient leur mère contre une place au Parc des Princes en demi-finale de Ligue des Champions et ils te font des bolaïus sur.
Mais juste pour finir là, sur ce qu'on disait, et je pense qu'après on va peut-être. On va peut-être changer un peu de sujet, mais ça me rappellera toujours cette phrase, en fait, que... Alors, ceux qui nous suivent pourront regarder le film qui s'appelle Moneyball, le stratège en français, et à un moment donné, c'est sur du baseball, alors on va dire, oh là là, mais mon Dieu, c'est chiant comme la pluie, mais absolument pas.
C'est très intéressant. Ouais.
C'est justement sur la mise en place des data dans le sport, et c'est justement... Le manager général des A's d'Oakland qui a mis ça en route, et à un moment donné son assistant le manager général dit, ah mais on a perdu notre meilleur joueur et tout, et son assistant dit oui c'est vrai mais vous avez bien fait de le perdre parce qu'en gros il était en train de superformer et vous n'auriez acheté qu'un an, comme pour Messi l'année dernière avec Paris, comme pour plein de joueurs, c'est-à-dire qu'à un moment donné, est-ce que tu vas acheter un an? Est-ce que tu vas acheter de la performance? Qu'est-ce que, quand tu vas mettre en place un transfert chez un, dans un club, qu'est-ce que tu vas vouloir faire avec ce joueur? C'est toujours, en fait, moi, c'est ce qui m'aurait pile le plus des joueurs français, des clubs français. T'as l'impression qu'en fait, quand tu veux acheter un joueur, t'achètes un joueur. T'achètes pas, en fait, une idée de joueur et une idée de ce que tu veux faire du joueur. C'est ça qui me terrifie à chaque fois. Et regardez ce film, parce que c'est vraiment, pourtant, ça s'est passé il y a 25 ans, quasiment, ce qui s'est mis en place dans ce club-là des A's d'Oakland. Et quand vous regardez le film, vous pensez à tous vos transferts et vous vous dites, en fait, mon club est dirigé par des pantins. Et pour tous, hein. Pour tous, hein.
D'ailleurs, pour aller plus loin sur ce sujet-là, il y a l'excellente émission de Canal qui est emmenée par celui qui aime bien les datas sur Canal, qui est le Canal, c'est Canal Football Manager. Et leur dernière pastille pour la saison 2, dire qu'il y a encore moins d'épisodes qu'une série française. Hein. Là, c'est le deuxième épisode de la saison 2, sachant qu'il y a eu 3 épisodes sur la saison 1. Ce qui est justement sur les datas et l'introduction des datas. Donc, il y a bien sûr un focus sur Toulouse et l'utilisation aussi des datas par les joueurs pour aller renégocier leur contrat. Ils prennent l'exemple de Kevin De Bruyne, à qui on proposait un petit contrat, et lui il a fait appel à une boîte spécialisée et ils lui ont sorti moi à City je fais ça, je rapporte ça sur le jeu, donc mes ambitions pour mon salaire, c'est le plus gros du club, c'est ça. Le mec en face de City, tu peux pas forcément dire grand chose parce que c'était du factuel, du pragmatique, et il a eu son augmentation de contrat et c'est devenu l'un des meilleurs joueurs à ce moment-là, peut-être même à ce moment-là le meilleur joueur, le joueur le mieux payé de PL, ce qui est pas forcément anecdotique, mais en tout cas je vous conseille cette émission, c'est vraiment pas mal. On parlera pas forcément de Monaco qui, comme on l'a dit tout à l'heure, hein, qui a fait le travail, qui a quasiment assuré sa deuxième place. Maintenant, ça va dérouler tranquillement. On va passer à la partie européenne assez rapidement. Débrief rapide, si vous l'avez vu, du match de Marseille et donc preview. On va pas parler de Paris. Sauf si vous voulez, vous n'aviez pas forcément donné votre prono pour le match retour. Déjà, rapidement, pour Paris, vous voyez quoi ? Déjà, victoire de Paris, mais un partout, et enfin 1-0 ou 2-1, ça va en prolongue au tir au but et ça perd. Donc, votre prono, c'est victoire plus qualif ou de manière assez tranquille au forceps ?
Tu connais, oui. Je ne veux pas faire, mais voilà. Mais je dirais juste cette chose-là. S'il ne passe pas, ce sera extrêmement décevant de la part de Paris. Et je pense que ça sera vraiment une grosse occasion manquée. Encore plus que ces dernières années. Là, c'est vraiment. Je pense que c'est vraiment l'année ou jamais. Donc, il faut vraiment qu'ils réussissent à se qualifier. Après, moi, ce qui m'impressionne beaucoup. Je pense que vous en aviez parlé, je me souviens, mais c'est vraiment ce côté très très rassurant de Paris où tu sens ils veulent aller, ils savent où ils veulent aller et ils ont cette force-là un peu en eux. Donc tu as cette confiance, il faut qu'ils aient cette bonne confiance, c'est-à-dire de garder leur plan de jeu, leur schéma de jeu, mais sinon. Sinon, moi, je dis que ça sera une énorme occasion de manquer. Et là, par contre, ouais, ça risque de chier dans les bottes. Jérôme ?
Oui, non. Moi, je vois Paris passer, je dirais 3-1 pour faire, pour faire un peu de suspense. Comme dit Carlos, c'est sur le match aller, c'est quand même décevant parce que franchement, de jouer avec le frein à main en première mi-temps, c'est agaçant. Mais ils peuvent le faire, évidemment. Ils peuvent le faire. Et Dortmund, c'est pas, c'est pas la bête, la bête noire. La bête noire, vous l'aurez en finale si vous y allez. Ce sera, c'est la bête noire de tous les clubs européens depuis des années. Pas des grands clubs européens, je vois Paris passer, mais ce qui m'agace en même temps, c'est ce qui va m'agacer, c'est l'euphorie qui va suivre, parce que quand tu joues à ce niveau-là, comme on dit, il faut toujours raison garder. Donc, faut voir le match aller. Moi, je pense que Paris va passer au match retour, mais voilà, faut voir le match aller, faut voir les carences qu'il y a au match aller. Je pense que Luis Enrique a l'expérience pour les voir et pour les analyser. Est-ce qu'il a les moyens de, voilà, de changer les choses? Ça, j'en sais rien. Je sais pas, je vais pas mettre en doute ou en disons, voilà, ses qualités d'entraîneur. Simplement, voilà, il va pas falloir il va pas falloir faire une première mi-temps comme Paris a fait au match aller, c'est tout. Mais après, c'est à Paris, voilà, il y a quand même moyen d'y arriver, quoi. Faut pas déconner.
Ouais, comme j'ai dit, voilà. On va dire que je vois pas Dortmund faire un meilleur match parce que pour moi, ils ont livré ce qu'ils avaient à livrer. Et je vois Paris faire
et surtout,
un match nettement meilleur et être au moins.
Surtout Dortmund, il n'y aura pas de grosses surprises de la part de Dortmund. Voilà, ce qu'a montré Dortmund au match aller, ils montreront pas. Non, mais voilà, Paris peut plus surprendre Dortmund au match retour que l'inverse. Dortmund, ils ont montré, il est rapide, machin, enfin, voilà. C'est tout. Il faut être sérieux. Surtout, il faut être sérieux et il faut être concerné, quoi. Moi, ce qui m'a agacé en première mi-temps, c'est de voir des joueurs qui sont, je sais pas qu'ils sont pas concernés, mais franchement, mets un peu d'entrain dans une, c'est une demi-finale de Champions League, les gars, quoi. Allez-y, quoi. Bon sang. Tu vas pas en jouer toutes les saisons, hein. Il n'y a que 4 clubs qui jouent les demi-finales. Et tu ne seras pas forcément toujours dans les 4 clubs. Sauf si tu joues au Real Madrid. Salut à notre ami Kylian. Mais voilà, c'est. Non. Moi, je vois Paris passer. Peut-être après les prolonges, j'en sais rien. Mais bon, on dira 3. Allez. Lançons-nous.
Arnaud
est figé. Ah bah,
Arnaud est figé.
Mon analyse là.
On va parler de Marseille alors tous les deux. Toi, tu as pensé quoi alors de cette demi-finale de Marseille? Est-ce que tu étais surpris ou pas?
Bah non, parce que j'avais prévu 2-2, donc voilà, j'avais prévu plus ou moins.
Après, moi, ce qui était surprenant, c'était l'intensité qu'ils ont mis et qu'ils étaient plus proches d'une victoire que d'une défaite, alors que moi, je les voyais plus proches d'une défaite ou d'un match nul que d'une victoire. Et c'est vrai que l'action, par exemple, de Aubameyang là, sur
son... Ah, mais non, mais ça compte, m'a agacé. Hein. Mais en même temps, quand je l'ai vu partir, j'ai dit, c'est pas possible, il va pas le rater, son but, quoi. Enfin... Je n'ai pas compris comment il a pu le mettre à côté du but. Qu'il tire sur le gardien, ça m'aurait moins gêné.
Oui, je suis d'accord. Tu sens qu'il veut vraiment la mettre sur le poteau.
Moi, je trouve qu'il n'est pas cadré ou qu'il est mis sur le poteau ou sur le gardien, j'en sais rien.
Je trouve que sa course est très mauvaise parce que quand tu regardes, c'est Unai qui lui fait la passe, qui part à droite et qui lui remet à gauche. Moi, je trouve qu'en plus, il part extrêmement loin. Il part excentré. Il doit plus repiquer. Et je trouve qu'il ne repique pas assez et qu'il se ferme.
Ouais, mais dans ces cas-là, il doit cadrer sa frappe. C'est pas possible, quoi. Franchement.
Ouais, non, mais je.
Et en même temps, je l'ai vu courir. J'ai vu la passe. J'ai dit, ça va encore finir à côté. Mais en rigolant, en disant, c'est un classique, quoi. Tu vois le mec qui part dans la profondeur, tu te dis, Et le mec, c'est pas possible, il la met à côté. Non, mais franchement, là...
C'est dommage parce que, tu vois, tu gagnes ce match-là, contrairement à Paris, tu te dis, tu peux aborder le match retour de façon, je vais pas forcément dire plus pérenne, mais c'est surtout, en plus, l'Atalanta, c'est pas forcément une équipe... qui aime trop avoir la balle, tu vois, tu te dis, tu t'aurais pu un peu plus gérer, et je pense que ça aurait été un peu plus... la gestion aurait peut-être été un peu plus un peu meilleur. Là, le fait d'avoir ce match nul, bon, l'Atalanta est un peu obligé de faire le jeu, mais c'est pas non plus. Tu vois, si tu vas en prolongation et tir au but avec un match nul, c'est.
Et puis ils peuvent marquer des buts. Hein. Moi, les deux matchs contre Liverpool, ils ont quand même marqué 3 buts à Anfield. Hein, donc.
Ouais, mais avec une projection vraiment de Liverpool, là, je sais pas si. Tu vois, j'ai trouvé que le fait que Marseille soit moins dans la projection et plus sur un jeu vraiment de grosse intensité au milieu de terrain, je trouve qu'ils ont plus du coup réussi à mettre en difficulté Bergame. Mais après, ben effectivement, l'avantage pour une fois que la LFP préserve les clubs français, le fait qu'ils n'aient pas joué cette semaine, ça va peut-être aussi un peu les reposer. Là, l'Atalanta joue aujourd'hui à 18h face à la Salernitana, qui étaient les derniers, donc ils ont réussi à gagner. Mais peut-être que justement cette semaine de repos va peut-être leur faire du bien et va pouvoir les préparer au mieux pour le retour. Sachant que de toute façon, s'ils arrivent à aller en finale, ça sera exceptionnel pour Marseille. Mais il ne faut pas qu'ils se figurent que ça va être simple en finale parce que t'as Leverkusen qui va arriver en face, qui n'a pas perdu un match depuis le début de saison.
Ah, puis là, ils ont gagné 5-1. Ils ont gagné 5-1 ce week-end. Là, ils font plus de cadeaux. Là. Ils sont champions, mais eux, par contre, ils. Comme on dit, 5-1 contre. Ils ont gagné
contre Augsburg.
Et. Enfin, je veux dire, ils font aucun cadeau, quoi. Enfin, eux, ils ne faussent pas le championnat, ça, pour.
Ça tourne toujours. Ouais. Bon, mon petit Jérôme, là, Arnaud, t'es là ou pas?
Oui, je suis là. Vous m'entendez bien?
Alors, on t'entend très bien, oui. C'est parfait. Ouais. On te voit pas, mais.
En fait, j'ai eu un magnifique écran bleu Windows.
Ah ben dis donc.
Donc ça a complètement stoppé. Et par contre, j'ai eu peur que le live s'interrompe, mais
on n'interrompt pas un live de Radio Merguez & Co comme ça.
Exactement.
C'est impossible. C'est comme Internet, c'est impossible à même.
Une fois lancé.
Même Christophe Dubarry qui essaie toujours d'arrêter les lives de Radio Merguez, c'est pas possible. Tu vois, même Windows n'a pas réussi.
Donc, en tout cas, bravo d'avoir pris le relais.
Ah bah bravo à Carlos qui a pris le. Voilà.
Ouais, j'ai bien compris que.
Non, mais on a compris que tu voulais pas parler de Marseille. on a compris.
C'est mon ordinateur, tu vois, il fait un refus d'obstacle.
Ah non, il est bien programmé. Voilà. Donc on a parlé un peu de Leverkusen, donc de la Bundesliga qui d'ailleurs qui est pas au mieux en Bundesliga. Et Bayern qui n'est pas sûr d'être deuxième.
Bah non. En plus là, ils ont perdu contre Stuttgart. Donc.
Ben oui, et qui est Stuttgart qui leur colle au train. Donc.
C'est, voilà. De toute façon, qu'ils soient pas deuxième, c'est peut-être pas.
C'est ça. C'est vu l'écart en droit télé, à mon avis, ça ne doit pas être monstrueux. Donc,
ouais. Non, mais oui. Mais bon, ça fera les pierres à Harry Kane.
Voilà. En tout cas, c'est vrai que sur le point de vue européen, il y a dans les gros championnats, même quasiment si on va même chercher les Redivisie et la Liga portugaise, il y a son champion depuis hier soir. Avec la défaite au Famalicão, on essaye de le faire avec l'accent, mais bon, je suis tout pourri. Désolé pour les lusophones qui nous écoutent. Avec la défaite de Benfica à Famalicão, t'as 2-0, et ça donne le titre. Ah, réduction du score de Lyon, 2-1. Ah. Mais attention, peut-être un hors-jeu. Non. Bon, on attendra, on verra bien. Donc avec cette victoire de Famalicão, le Sporting est officiellement champion du Portugal. Donc c'est fait en France avec Paris, c'est fait en Espagne avec le Real, c'est fait en Italie avec l'Inter, c'est fait en Allemagne avec Leverkusen, c'est fait en Eredivisie avec le PSV. Je sais pas en Belgique avec leur système à la noix qui est champion.
Pas encore,
non, finalement, il reste l'APL où ça se tire la bourre entre Arsenal
et
City.
Et surtout, il nous reste l'Autriche.
Je crois qu'on va
pouvoir aborder ta merguez, du coup. Ta saucisse.
Non, c'est pas ma merguez. Non, c'est.
Ta chipot.
J'ai une chipot. Mais en Autriche, oui, le Salzbourg qui sera peut-être pas champion depuis 15 ans maintenant. Hein, le Salzbourg, le Red Bull. Et donc oui, ce sera un petit peu serait Sturmgrat qui serait champion, donc un vrai club de foot, non pas un club monté de toutes pièces par des vendeurs de canettes de boissons énergétiques. Et donc ce serait une petite révolution en Autriche, oui. Le Salzbourg qui a perdu donc 2-0 à Vienne contre le Rapid ce week-end. Voilà. Donc c'était un petit plaisir du week-end de voir. J'y étais pas malheureusement. Mes amis y étaient, mais moi je n'y étais pas. Mais ça fait toujours plaisir de voir. Et Manchester United qui est en train de se prendre une branlée contre Crystal Palace aussi.
Ouais. J'avais 2-0 tout à l'heure là, mais.
On est à 4-0 là. Ça fait toujours plaisir. Moi je dis quand Manchester perd, voilà.
Donc... Qu'importe United ou City.
Voilà.
De toute façon, on va dire que Jérôme, si Arsenal, si Tottenham, si Chelsea, si City, si United perdent, il est content.
United, c'est quand même l'ennemi historique de Liverpool. Voilà, c'est tout. Après,
c'est le derby d'Angleterre.
Hein?
C'est le derby d'Angleterre.
C'est le derby, oui. C'est les voisins. C'est un Rennes-Nantes, quoi. Voilà. Et si le Rennes-Nantes, si la confrontation entre Rennes et Nantes, c'est un peu né de la confrontation entre Liverpool et Manchester, quoi. Voilà. Mais bon. Mais non. Après, j'aimerais mieux voir Arsenal perdre et City, mais bon, ça va pas se faire cette année.
Avais-tu une autre petite chipo merguez ou on enchaîne sur
ma chipo merguez, alors moi c'était, je voulais
la vraie,
la vraie, voilà. Alors la vraie. Je sais pas si c'est une chipo ou une merguez. Alors au départ c'est une merguez, c'est le fait que la journée du 5 mai soit il n'y ait pas de match de football le 5 mai en hommage au drame de Furiani qui a lieu il y a 31 ans maintenant, hein, parce que c'était 93. Moi, je m'en rappelle très bien puisque j'étais devant. Je suis un vieux. Hein, pour les jeunes qui nous écoutent, j'avais une vingtaine d'années. Donc, j'étais devant ma télé et je me rappelle très bien parce que c'était à l'époque qu'on avait les moins de 40 ans s'en souviennent pas, mais il y avait Jean-Michel Larquet et Thierry Roland qui commentaient tout, un peu tout et n'importe quoi sur TF1. Et donc, on avait Thierry Roland qui était au commentaire et Jean-Michel Larquet avec lui. Je ne sais plus, il y a Thierry Roland à un moment qui demande « Alors, qu'est-ce qui se passe, Jean-Bubi, qu'est-ce qui se passe ?» C'était plus une trentaine de minutes avant le match. Alors, qu'est-ce qui se passe? J'espère qu'on va pouvoir jouer ce match entre Marseille et Bastia, hein, puisque c'était à Furiani. Donc, Bastia et Marseille. Et moi, je me rappelle très bien Jean-Michel Larquet qui a dit, en direct à Thierry Roland, qui lui était complètement à l'ouest, hein, voyait rien de ce qui se passait. Il a dit, non, mais là, va falloir rendre l'antenne. Enfin, là, c'est pas possible. Lui voyait en direct les gens, les tribunes, la tribune s'est écroulée, les gens qui étaient en train de mourir étouffés. Voilà, il y a 39 morts, si je ne dis pas de bêtises. On parle souvent des drames d'Hillsborough, des drames du Hazel, des drames dans des stades de foot. Moi, j'ai fait découvrir à des amis, des amis autrichiens, via, enfin, via comment dire un post en anglais pour leur expliquer. Et certains ne connaissaient pas du tout ce drame-là, et c'est fait quand même partie des drames du football, parce que voilà, on pense aux victimes, et je trouve ça très bien que la Ligue, la FFF, et
ça n'a pas été facile d'instaurer cette journée.
Mais je ne sais pas qui.
Ça voulait pas la Ligue. Mais la Ligue freinait des cas de fer.
Je trouve très bien que ce soit imposé. Comme ça, les gens se disent « Ah, tiens, pourquoi je n'ai pas de match aujourd'hui ?» Rappelle-toi. Et de rappeler surtout que, oui, il y a des supporters, j'en parlais tout à l'heure, notamment du Rapide, qui se sont illustrés lors de la finale de la Coupe contre Chaume, de manière très agressive et pas du tout dans le sens où on aime précis. Comme à Hillsborough, ce sont pas les supporters qui sont coupables, ce sont les organisateurs, la police, etc., enfin les forces de sécurité, et de rappeler que les gens que le foot, c'est pas des imbéciles qui hurlent, qui ânent dans des tribunes et qui agressent tout le monde. C'est aussi des gens qui viennent voir un match, qui sont contents, et que pour des raisons diverses et variées, on gâche la fête, on détruit des vies, et ça, c'est un mélange un peu de merguez chipot, parce que j'apprécie le fait que cette journée soit banalisée, commémorée, et en même temps, que le fait que on veut des tribunes, on veut plus de gens dans les stades, etc., et au mépris de la sécurité, Donc je voulais rendre hommage à ces gens, aux victimes de la bêtise humaine. Qu'il soit à Furiani ou à Hillsborough. Voilà.
Ça marche.
Ma petite chipo merguez.
Carlos,
ma chipo, vous pouvez voir derrière moi.
Allez.
Ce beau stade qui va retrouver la Ligue 1 l'année prochaine. Nous sommes en Ligue 1.
Vous êtes en Ligue 1, ça c'est sûr.
On est en Ligue 1.
Vous n'êtes pas forcément champion de Ligue 2, mais vous êtes en Ligue 1.
Mais sans Canal+, qui a décidé de pas jouer, de pas reprendre les droits du foot. Mais Pélissier qui avait, moi je me souvenais pas, mais en fait Pélissier c'était l'entraîneur qui avait fait monter l'USNAC en D2 et à qui on avait refusé la montée. Et en fait c'est quelqu'un qui est quand même plutôt, qui est plutôt porté par le jeu et c'est franchement. Depuis le début de saison, Serge joue plutôt pas mal au foot, vu l'équipe qu'on a. Enfin, je veux dire, c'est quand même des bons joueurs de Ligue 2, mais je trouve que c'était quand même plutôt même plus intéressant que Furlan l'année de la montée. Donc voilà, j'ai hâte de voir ce que ça peut donner l'année prochaine. Le président chinois a dit qu'il voulait essayer d'injecter un peu d'argent pour essayer de recruter quelques petits joueurs, mais on va peut-être faire ça plutôt de
façon moins
posée. Pas comme il y a deux ans. Où tu recrutes Mbam Nyang et Costil. Donc voilà. Donc hâte de voir ça. Et puis ma petite merguez, c'est que le week-end aurait pu être parfait si le Saint-Pauli avait gagné le derby face à Hambourg. Puisqu'ils auraient pu monter aussi en première division d'Allemagne, mais ils ont perdu le derby et ils ont encore 4 ou 5 points d'avance à 2 journées de la fin, sachant qu'ils accueillent le dernier. Bon, ça devrait le faire quand même. Ça repart qu'une semaine. Donc voilà.
Eh bien, alors, parfait.
Jérôme a frisé aussi. Je crois que il va bientôt falloir qu'on arrête parce que tout le monde est en train de friser.
Et pourtant, il n'y a pas trop de pluie, mais c'est ça. Friser, ça, c'est ça nous arrivera plus, mon Carlos. Et encore, peut-être si jamais on se laisse un peu pousser la le mulet, ça peut un peu couper, mais voilà.
Après, donc, vous faites ce que vous voulez, hein.
Ouais. Donc Lyon avait bien réduit la marque. D'ailleurs, Zegrova est ressorti. Donc il est rentré et là il est sorti, mais là vraiment pour du coaching. Lyon a vraiment accéléré sur cette fin de match et ça serait pas forcément immérité s'il revenait à 2-2. Il reste un quart d'heure à jouer. On va dire que notre Jérôme est à fond derrière les Lillois, hein, parce que un Lyon qui prend un point, c'est toujours embêtant pour la course à l'Europe. Donc voilà, on est pas mal, on est sur une heure et demie d'émission. On a traité de tout ce qu'on voulait. On est derrière nos clubs français.
On a fait un bon tour ouais, de France et d'Europe.
On a pu bien s'apesantir sur des clubs.
Si jamais
pas on forcément tombe... sur le reste sur les restes d'émissions, on a pu parler de pas mal de Brest, de Rennes, même en bas du classement, donc on est pas mal.
Oui, non, on a fait le tour. On a parlé de l'Allemagne, Leverkusen, tout ça. Mmh. Non. Et on n'a pas trop parlé. Moi, je trouve qu'on n'a pas trop parlé de Rennes et de Liverpool, finalement. On a parlé plus de Metz, de Brest. Voilà. On aurait pu parler. Magnifique but. Attends, si. Magnifique but de d'Harvey Elliott pour les amateurs de. Franchement, si vous n'avez pas vu le but d'Harvey Elliott contre Tottenham, allez voir. Vous tapez Harvey Elliott, Tottenham. Il est. Incroyable. Enfin, voilà. C'est un but des 35 mètres, pied gauche direct, lucarne. Enfin, bon.
Le seul Elliot que je connais, c'est le dragon. Peter Elliot, le dragon.
Oui, Peter Elliot, oui. Ben non, c'est Harvey Elliot voilà, qui joue à Liverpool. Et quel but magnifique. Bon, après, voilà, les problèmes de Liverpool sont un peu les problèmes rennais, c'est que. Voilà. Ils sont obligés d'en marquer 4.
Ça commence à partir un petit peu en sucette. T'as Darwin Núñez qui a effacé toutes ses photos de son compte Instagram de Liverpool en ne gardant que celles de l'Uruguay et de Benfica. Ah yeah, c'est une ado prépubère qui est en rupture amoureuse.
Je sais pas. Après le départ de Jürgen, ça va être. Et d'ailleurs, moi, en voyant jouer comment il s'appelle Son, le joueur de Tottenham, je me dis que ça pourrait être un bon remplaçant à Mohamed Salah. Mais bon, connaissant le président de Tottenham, il va encore demander 150 millions pour vendre son joueur, donc ça ne le fera pas.
On ne l'a fait pas à M. Lévy.
Bah oui, non mais voilà, parce que...
Il a vendu Harry Kane pour une saison de contrat 120 millions au Bayern. Tu ne crois pas qu'ils vont vendre à un concurrent direct son meilleur joueur, quoi.
Ouais, enfin, concurrent direct, ils sont loin derrière quand même, mais bon, c'est pas le problème, mais voilà.
C'est un concurrent au top 4.
Ou au top.
À la 7. Victoire, non, c'est Tottenham, on le sait tous.
Ouais.
Carlos, rien à ajouter ?
Non, à part que demain, il va falloir que j'aille travailler, donc je pense que j'ai beaucoup à dire.
C'est quoi ça ? Le travail ? Ah oui, bien sûr. Oui.
Si, quand même.
Le travail.
Allez, moi, comme d'habitude, je serai en soutien psychologique via mes camarades du barbecue F1. Ils m'aideront si jamais ça se passe mal avec Paris. Mais sinon, vous nous...
Généralement, à chaque fois qu'il se passe ça, à chaque fois, ça porte chance, mon petit...
Ouais, bah la dernière fois c'était le 3-2 de Barcelone à Paris. Hein, donc, mais généralement ça se passe assez bien. Mais sinon pour le prochain barbecue foot, c'est le débrief presque à chaud. D'ailleurs ça va presque devenir le nom d'une rubrique. Hein. Donc vu que ça sera mercredi soir, on va dire vers 22h45 sur la fin du match du Real. Qui reçoit donc le Bayern. D'ailleurs, on n'en a pas parlé. Pour vous, c'est sûr que le Real est en finale ou
oui.
Je sais pas.
C'est Bavarois sont. Moi, Moi, je sens bien les Bavarois la faire à l'envers au Bernabéu.
Là, ils sont capables. Hein. Ils sont capables. Ouais,
non. Non, non. Croyez-en à Liverpoolien, vous allez avoir le Real au final et vous allez pleurer.
Ah, voilà. Mais je pense que tu peux avoir match nul et après, la loterie, hein, vous savez.
Ouais, la loterie. Ouais, ouais.
Donc, ouais, moi, je pense que ce n'est pas forcément fait pour,
sors
pour le
Real. Sors de ce corps, Didier. Sors de ce corps.
Messieurs,
bah, allez.
Bonne soirée.
Bah, bon allez, match au Parisien, en tout cas. Hein. Allez.
Ouais. Et faites encore
avec eux.
Ouais, on va essayer, mais ça ne tient pas qu'à moi. Hein. Donc, ouais. on va être fort sur les appuis. Ah, et voilà, je vous l'annonçais. Lyon qui revient à 2-2. Et donc, vous saurez.
Bravo, Lille. Bravo, les Lillois.
Vous saurez lundi prochain si Lyon a finalement gagné. Bah.
Allez,
ciao.